Les groupes de supporters que l'on va présenter selon les points de vue comme étant, disons, des hordes sauvages, des associations d'instincts belliqueux plus proches de l'état de nature que de l'état de culture, ça peut être effectivement, visiblement le cas lorsqu'il y a des accès de violence, mais en réalité, derrière, il y a beaucoup de rationalité et même de stratégie, c'est-à-dire qu'entre groupes de supporters, il y a une mémoire des contentieux et même une mémoire, du coup, des soutiens, des solidarités aussi. Ce qui fait que quand il y a deux groupes qui sont ennemis, ils le sont pour toujours. Et la question intéressante au plan sociologique, c'est quand sont-ils devenus ennemis ? Ben, ils sont devenus ennemis, par exemple, lorsqu'un groupe a construit une expédition punitive pour voler une bâche d'un groupe de supporters, ou bien pour satisfaire la vengeance d'un groupe ami qui a été la victime de ce groupe.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour qu'en quelque sorte, ces groupes d'adversaires fassent la paix ?
Alors, ces groupes d'adversaires ne feront pas la paix. Ils ne feront pas la paix parce que la culture première du mouvement ultra, c'est une culture d'indépendance, d'autonomie. Bien souvent, dans ces groupes ultra, il y a de jeunes hommes. C'est-à-dire que être supporter ultra, c'est faire l'expérience de la jeunesse et de sa virilité. Et évidemment, de son identification à un lieu, à un territoire. Ça fait partie de la culture du mouvement. C'est-à-dire que l'œuvre, le fait d'être ultra, implique nécessairement de supporter d'être un partisan différent du partisan classique, qui supporte, qui chante, qui est déçu d'une certaine façon, normé, acceptable socialement. Ça n'est pas possible. Si on est un supporter, j'ai envie de dire, pacifique, pacifiste, qui vit sa passion d'une façon plus individuelle ou collective seulement dans les tribunes, en hurlant quand il y a une faute d'arbitrage ou en chantant sa joie quand il y a un beau but, on n'est plus un supporter ultra. Donc on ne fait plus partie des groupes parce qu'il y a un contrôle social des groupes ultra sur leurs membres. Ceux qui ne sont pas ultra ne figurent plus dans les groupes. Donc on ne peut pas rétablir une paix entre les groupes qui sont les plus violents. Il y a des confrontations entre clubs qui débouchent nécessairement sur de la violence. La seule chose qu'on puisse contrôler grâce aux mesures, c'est l'endroit où se passent les événements violents, mais c'est aussi de stabiliser les types de conflits qu'il y a entre certains groupes. C'est-à-dire que quand entre certains groupes il n'y a pas encore de gros conflits, intervenir, ça permet de stabiliser l'affaire. Mais là où c'est très difficile, ce sera toujours très difficile. Simplement, les mesures provoqueront un déplacement spatial et temporel des violences.
C'est quand même assez pessimiste. On a l'impression qu'on ne peut pas se sortir de ce phénomène de violence.
On ne peut pas sortir de ce phénomène de violence. Ça fait partie de la culture du supporter ultra. D'autant plus en Italie, parce que dans la majorité des cas des clubs connus, la norme en matière de supporterisme, c'est le supporterisme indépendant. C'est-à-dire que avant de faire en sorte que les choses s'arrangent, il faudrait changer la sociologie des tribunes. Faire en sorte finalement que ces groupes atomisés, qui règnent chacun sur leur territoire, n'existent plus. Soit on remplace les supporters, soit d'une façon beaucoup plus progressive, on modifie les normes de comportement dans les stades. Mais ça, c'est surtout plus facile quand les groupes de supporters ultra ne dominent pas les tribunes, ce qui n'est pas le cas en Italie.